Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes tirés du média suivant, les libraires. Au programme, le bal des détraqués. Lire Anna Arendt à l'aube d'une révolution. Et Romain Gary, l'insolite consul.
Le bal des détraqués, une chronique d'Elsa Pépin parue le 13 juin 2023 dans la revue Les Libraires. On dit que ces gens vivent au bord du monde, dans ces marges qu'on préfère taire et cacher. Et s'ils disaient ce que nous sommes en secret? Mariana Henriques et Pauline Peyrade exposent sans détour ni lyrisme la violence des vies de ceux et celles qu'on qualifie de fous, d'aliénés ou de déséquilibrés. Reine du gothique et du macabre, l'écrivaine argentine Mariana Henriques s'est notamment fait connaître avec « Notre part de nuit », un pavé noir et cruel aux notes fantastiques sur une histoire de filiation entre un père et son fils. Elle renoue avec le récit d'horreur et d'effroi dans « Les dangers de fumer au lit », s'immisçant cette fois dans la tête de marginaux en tout genre. Revenants, fétichistes, prostituées, enfants toxicomanes, clochards et filles violées. Avec plusieurs scènes et personnages récurrents, Henriques propose une ode à l'étrangeté, un univers scabreux, glauque et tragique, mais aussi drôle et déstabilisant. On y trouve une femme excitée par des hommes cardiaques, car en général, on ne remarquait pas qu'ils étaient malades, et quand ils étaient beaux, c'était une sorte de beauté détruite en secret. Fascinée par la fragile beauté de ces êtres malades, l'héroïne de cette nouvelle se masturbe violemment en écoutant le pouls des cœurs détruits, dont il existe tant de variétés. Il est aussi question de filles séquestrées et filmées pendant des agressions sexuelles, d'enfants enlevés qui réapparaissent 3 ans plus tard, exactement comme le jour de leur enlèvement, comme si le temps s'était figé par un étrange sortilège. Y est abordé tout ce qui a trait au macabre, le fanatisme d'un adolescent pour un artiste qui vante le cannibalisme, l'engouement de jeunes pour le Ouija. Quelques passages rappellent Cronenberg, notamment lorsqu'il est question de corps mutilés, mais surtout, on remarque une originalité sans pareille et un déroutant sens de l'observation qui met l'accent sur l'aspect le plus honteux d'une réalité, cet angle mort de nos sociétés privilégiées dévoilées sans ménagement. Le recueil se promène à la frontière d'un monde de superstition, d'ésotérisme et de fantastique, mais jamais Henriques ne quitte les rives de la réalité des bas-fonds de la société qu'elle ausculte avec un humour délicieusement subversif. Dans la première nouvelle, l'exhumation d'Angelita, une fille rencontre le cadavre d'un bébé mort, la sœur de sa grand-mère, enterrée en cachette dans l'arrière-cour. Elle essaie d'étrangler le petit fantôme, mais n'y parvenant pas, finit par accepter son existence de petite revenante, la transporte, lui achète un masque pour le visage. La nouvelle suivante raconte l'histoire d'une rivalité féminine. Deux filles de 17 ans, frustrées parce que leur copine, moins jolie qu'elle, a plus de succès qu'elle auprès d'un certain Diego. Comment ce gars pouvait-il préférer cette débile cupla à elles deux? Pour se venger, l'une d'elles met du sang menstruel dans le café de Diego, méthode trouvée dans un livre de parapsychologie, peu hygiénique, mais apparemment infaillible pour ferrer l'être aimé. Anti-conte de fées, satire féroce d'une société répressive et de ses pires vices et travers, les nouvelles d'Henriques font notamment le portrait d'une Barcelone pleine de toxicos et de fous, développant au passage une intéressante théorie sur la fonction de ces êtres marginaux. Parfois, j'ai l'impression que les fous ne sont pas de vrais gens. Ils seraient comme les incarnations de la folie de la ville, des soupapes de sécurité. S'ils n'étaient pas là, on s'entretuerait ou on mourrait de stress, ou de je ne sais quoi. On assassinerait ces enfoirés de flics qui ne nous laissent plus nous asseoir sur le trottoir du musée. Ellipse. Levant les tabous sans scrupules ni aucun sensationnalisme sur les horreurs quotidiennes, tel ce clochard qui chie devant des gens outrés d'assister à cette scène décadente devant leur maison cossue, l'écrivaine décrit dans le détail ce qu'on ne veut ni voir ni entendre. Ce livre confronte le lecteur à une misère qu'on redoute, montre combien nos mondes sont cloisonnés entre les gens dits « normaux » et les autres, le voyou réduit à voler pour survivre, la jeune toxico qui se prostitue. Leur décalage avec le monde témoigne de la violence des multiples exclusions, de celles que la vie impose. Au bord du monde. La narratrice de « L'âge de détruire » appartient aussi à ce clan des marginalisés, petite fille victime d'inceste et de l'autorité tyrannique d'une mère abusive. Ce court premier roman de la dramaturge française Pauline Peyrade se découpe en deux parties. L'âge 1 se passe en 1993, lorsqu'Elsa a 7 ans et qu'elle s'installe avec sa mère dans un nouvel appartement. Elsa s'étonne de trouver un lit à étage dans sa chambre, découvre sa nouvelle école et se fait une nouvelle amie, la jolie Issa, avec laquelle elle reproduira le comportement incestueux de cette mère violente qui la rejoint la nuit dans son lit et lui fait mal au sexe. Dans une langue économe, presque télégraphique, la romancière s'immisce dans la tête de cet enfant qui relate son quotidien et suit sans la comprendre la déchéance de sa mère qui la violente et lui demande inlassablement « Dis-moi que tu m'aimes ». Le climat toxique de la relation se révèle progressivement, ainsi que celui des femmes de la famille qui se lèguent, de génération en génération, une bague qui leur fait un garrot sur le doigt avec laquelle la grand-mère blessait la mère lorsqu'elle la criblait de coups. L'âge de détruire serait donc une fatalité, un temps immémorial qui dure toujours. « Nous nous tuons nous-mêmes pour ne tuer personne », écrit Peyrade. Dans la seconde partie, l'âge 2, Elsa a 20 ans et tente par tous les moyens de se tenir à distance de cette génitrice possessive et cruelle. Si le roman est sombre et froid, il est aussi charnel et traversé par les accès d'une sensualité troublée. Les séismes contradictoires de la narratrice, notamment ce moment où elle découvre son désir pour Issa, raconté avec une poésie exaltée, inspirée et fébrile. D'une précision admirable, celle d'une sculpture de marbre parfaitement ciselée dont les angles et les contours éclatent dans une lumière crue, ce récit crève-cœur livré sans lyrisme rapporte avec justesse la vie d'une fillette brisée qui cherche à s'accrocher aux choses concrètes lorsqu'elles glissent, chavirent et suffoquent. La minutie presque maladive avec laquelle elle relate sa vie, ce soin qu'elle met à dire chaque détail paraît s'élever comme un rempart contre l'effondrement. Terrible et fascinant. C'était « Le bal des détraqués », une chronique d'Elsa Pépin parue le 13 juin 2023 dans la revue Les Libraires. Lire Hannah Arendt à l'aube d'une révolution. Un texte de Sébastien Veilleux paru le 13 juin 2023 dans la revue Les Libraires. Lorsqu'elle publie Les origines du totalitarisme en 1951, le terme est nouveau. Au contraire de la dictature qui s'oppose à la démocratie, le totalitarisme cherche plutôt à la pervertir, d'où l'importance de le nommer et de le définir. De même, lorsque l'Inde acquiert son indépendance face à l'Empire britannique grâce à la désobéissance civile, l'emploi du terme impérialisme succède au mot colonialisme. La honte change de camp dans le langage populaire. Au cours des décennies suivantes, un vent d'indépendance soufflera sur les pays colonisés à la suite de ce changement de culture, non pas des gouvernements, mais au sein même de leur population. Toute gouvernance repose sur l'opinion, explique-t-elle dans « Du mensonge à la violence ». C'est le discours populaire qui donne son pouvoir aux institutions d'un pays. Les révolutions surviennent quand le peuple sent que l'autorité ne contrôle plus le message, nous dit Arendt. Des mouvements tels que #MeToo et Black Lives Matter ont su imposer un nouveau vocabulaire. Ce n'est pas l'injustice qui provoque le soulèvement. Les mensonges politiques et les inégalités sociales bénéficiant d'une tolérance avérée en temps normal, mais les cafouillages du pouvoir face à un nouveau discours. La trame des réalités parmi lesquelles nous vivons au quotidien est fragile, soutient l'autrice. Des mots comme néolibéralisme, patriarcat, racisme systémique ou encore culture du viol change notre perspective historique et prive l'autorité de son meilleur atout, le respect des traditions. Dans « De la Révolution », la philosophe s'intéresse à la place des émotions dans la sphère publique. Elle compare les révolutions américaines et françaises, qui ont eu lieu à 6 années d'intervalle pour des raisons similaires, le rejet de la monarchie. La première fut menée pour des questions de principe, les Américains ayant fui l'Ancien Régime. La seconde tira profit des émotions exacerbées du peuple et succomba à la barbarie. Pour Arendt, les émotions pures n'ont pas leur place dans la sphère publique, ni la haine, ni l'amour. Alors que les pères fondateurs s'efforçaient d'élever le débat en Amérique, Robespierre, en France, attisait la colère des manifestants et exprimait de la pitié envers les pauvres. Ses décisions ne tardèrent pas à contredire ses paroles une fois qu'il arriva au pouvoir. Bien qu'il fût probablement sincère au début du soulèvement, il sera mené à la guillotine après une ascension rapide. Les qualités du cœur requièrent de l'obscurité, affirme Arendt. Elles demandent à être protégées contre la publicité pour croître et demeurer ce qu'elles sont censées être, des ressorts intimes qui n'ont pas la vocation d'être affichés en public. Si profonde que puisse être une motivation, une fois extériorisée, elle devient objet de suspicion. Ce qui était droit en étant caché paraîtra tordu une fois affiché. Les émotions sont tissées à même nos conflits intérieurs, et seule notre conscience arrive à les décoder selon sa propre logique. En d'autres termes, si les émotions sont à l'origine des révolutions, telles une matière première ou une source d'énergie brute, elles ne sauraient être une fin en soi. Pour porter fruit, elles doivent s'incarner à travers un principe dont la justification s'impose comme une évidence aux gens de bonne foi, par exemple l'inclusion sociale. Le premier enseignement de la civilisation, nous dit Arendt, est celui de l'obéissance. Même si, au cours des dernières années, des mouvements de contestation ont fortement ébranlé l'autorité en Occident, qu'un nouveau vocabulaire s'est imposé dans le discours populaire et que le régime en place peine à défendre les valeurs qui l'ont porté au pouvoir, la croissance économique, nous sommes encore loin d'une révolution puisque la démocratie permet au peuple d'exprimer son insatisfaction par le processus électoral. Ce levier s'avère suffisant en général pour calmer les tensions sans provoquer un changement de culture. L'autorité est passéiste de nature, même celle qui s'est hissée au pouvoir en promettant des changements. L'impermanence des choses fait peur à la classe dirigeante. L'ultime ingrédient de la révolution demeure la désobéissance civile, la plus dangereuse des contestations, qui semblera contre-intuitive à bien des gens car, précise l'autrice, la plupart d'entre nous entrent dans ce monde en étant heureux et heureuses des conditions qui les ont vues naître. La désobéissance civile survient quand seul le sacrifice permet de préserver notre santé mentale. Tous les régimes en arrivent à ce point de rupture où les traditions passéistes qu'ils défendent s'opposent aux nécessités du monde actuel. L'autorité commencera par traiter les contestataires de fanatiques, puis, voyant que leur cause gagne les cœurs et les esprits, elle promettra des changements qui s'avéreront insuffisants. L'État montrera alors son vrai visage, un instrument d'oppression au service de la classe dominante. La tyrannie, nous dit Montesquieu, est la plus violente, mais aussi la plus fragile des formes de gouvernance. On tolère le mensonge des politiciens parce que, de tout l'arsenal de moyens dont ils disposent pour imposer leur volonté, c'est le plus inoffensif. L'espèce humaine a une relation conflictuelle avec la vérité. Faut-il que la vérité éclate si le sort du monde est en jeu? La violence physique ou institutionnelle s'instaure quand le pouvoir commence à se perdre. L'autorité peut se passer de justification, mais pas de légitimité. C'est à ce moment que la vérité devient une arme, affirme Arendt. Par définition, c'est un lieu commun, tant sur le plan philosophique que politique, un point de convergence. Bien que nous possédions la capacité de déformer un fait réel par la pensée et la parole, une fois que la vérité s'impose à nous, cette même faculté nous rend aptes à introduire de la nouveauté dans notre raisonnement, justifiant ainsi une prise de risque qui nous paraissait inconcevable. Malgré les cris du cœur des nouvelles générations et l'impression grandissante que le monde de vie occidental relève du suicide collectif, l'ère du temps n'est pas au sacrifice. Il n'empêche qu'à la mort d'Anna Arendt en 1975, la définition du terme « impérialisme » s'était déjà réactualisée pour s'appliquer à la politique étrangère des États-Unis au Vietnam. Il serait intéressant de savoir ce que l'une des plus influentes analystes du totalitarisme penserait aujourd'hui du néolibéralisme. C'était « Lire Anna Arendt à l'aube d'une révolution », un texte de Sébastien Veilleux paru le 13 juin 2023 dans la revue Les Libraires. Romain Gary, l'insolite consul, un texte de Robert Lévesque paru le 13 juin 2023 dans la revue Les Libraires. À l'instar de Claudel, Morand, Saint-John Perse, mais peu à leur manière, Romain Gary a consenti, le temps d'un lustre, à tenir un rôle dans la grande carrière, la diplomatie, le jouant à la manière de Stendhal, séducteur, fugace. Et, en tout respect des ambitions de sa mère, fidèlement mais courtement. Consul général de France à Los Angeles, autrement dit à Hollywood, à la mi-50s de 1956-1960, sous la présidence du général Eisenhower et de son sombre vice-président Nixon, tout juste avant l'élection de JFK, Gary aura vécu là, au 1919 Outpost Drive, dans une vaste maison de type espagnol, une période de sa vie où, paradoxalement, c'est l'écrivain en lui qui va germer pour de bon. Il a écrit à la chancellerie, plus que des rapports, des romans, Les Racines du Ciel, La Promesse de l'Aube et Lady L, a fréquenté plus de stars que d'estafettes. Et, in fine, il croisa la beauté envoûtante de Jean Seberg. C'est en 1960 que Gary la rencontre. Elle accompagne son mari, jeune avocat parisien venu présenter sa carte de visite au consul général. L'apparition en forme de coup de foudre absolu provoquera, après leurs amours d'abord clandestines, un appart dans l'île Saint-Louis, deux divorces, le sien avec la journaliste anglaise Leslie Blanche, qui avait 10 ans de plus que lui, sa Lady L, et celui de cette Américaine qui venait tout juste à 21 ans de tourner À bout de souffle, le premier film de Godard qui n'était pas encore sorti. Gary, lui, avait 45 ans. Le monde du cinéma, ébloui, allait découvrir cette Jean Seberg en vendeuse de l'International Herald Tribune dans les rues de Paris. Si l'on anticipe, on pourrait ajouter au divorce subséquent leurs suicides successifs. En 1979 pour elle, alcool et barbiturique, en 1980 pour lui, une balle dans la bouche. Mais qu'en était-il du diplomate Gary? Kerwin Spire a réuni un maximum de renseignements et consulté des archives inédites pour faire le point non sur la vie sentimentale de Gary, quoique il évoque un flirt continu avec sa secrétaire, Odette de Benedictis, à qui il propose de faire un enfant, mais sur sa carrière officielle, assez atypique merci, et même insolite, de représentant de la France à Los Angeles. Kerwin Spire a bien travaillé car son ouvrage est pure affaire de documentation pour lui qui, né en 1986 à Marseille, n'a pas été un témoin contemporain de la trajectoire de la comète Gary, le pilote de guerre de la France libre, le compagnon de la Libération, l'écrivain qui mystifiera le monde littéraire en se dédoublant et décrochant par ce subterfuge un deuxième prix Goncourt, sous le nom d'Émile Ajard, et n'a donc pas humé par ses deux narines ce capiteux parfum Gary. C'est un dossier qu'il signe, et étonnamment, sans cette froideur du travail technique de l'apprenti, mais une franche empathie bien sentie de l'amateur. Consul de France aux États-Unis vers la fin des années 1950, alors que les effluves malodorants du macartisme flottent dans l'air, voilà ce qui rendait sa mission délicate au point de départ, puisque Gary était tout de même né à Vilnius, d'une mère juive et de père inconnu, et qu'il a grandi à Moscou. Pour être acceptée, la candidature de Gary fut donc maquillée par les stylistes du Quai d'Orsay. Pur mensonge, on affirma qu'il était né à Nice, alors qu'il y était arrivé avec sa mère à 13 ans et qu'il était de religion catholique. Bref, on lui ajusta un costume présentable au pays de l'anticommunisme. Ces années de la fin de la décennie 1950 sont aussi celles des événements en Algérie, cette guerre qui ne disait pas son nom et avec laquelle Gary aura quelques misères à défendre la politique de la France, un État colonialiste dont il était le représentant, lui plutôt libertaire et humaniste. Il se verra forcé de signaler au Quai d'Orsay la présence en Californie d'agents du FLN qui s'infiltrent en quête d'appui alors que la politique américaine prend ses distances avec la France à cet égard. Pas facile pour lui et il cachera sa honte derrière la fumée de ses Monte Cristo numéro 4. Il danse sur le sujet quand il déclare à l'Express « L'exemple d'un anticolonialisme justifié se transforme en un absolutisme nationaliste insupportable et très net. » Et qu'il ajoute qu'il y a en Algérie une vie française aussi indéracinable que la vie arabe. C'est la position du Camus croyant ingénument à la possibilité d'une cohabitation pacifiste des deux peuples. Et Camus qui meurt en janvier 1960. La question algérienne a donc pu jouer dans la décision que prend Gary de mettre fin à sa carrière de diplomate, carrière qui, vraisemblablement, n'était pas faite pour un homme comme lui, direct, franc, fier, téméraire, libre. Lui qui a pleuré de bonheur le 15 mai 1958 en apprenant que le général de Gaulle revenait aux affaires en se disant prêt à assumer les pouvoirs de la République, et qui lui consacra le 8 décembre un portrait magistral en 9 pages dans Life magazine titré « De Gaulle, the man who stayed lonely to save France ». Eh bien, Lorsque son cher héros historique vint en visite officielle aux États-Unis en mars 1960, le consul insolite qu'il était n'était pas là. C'est Leslie Blanche, sa femme, qui joue l'accueil au général lors de l'escale à San Francisco. Où était-il donc, le consul général? Sous prétexte de se rendre à Vichy, ça ne s'invente pas, pour une cure thermale, Kerwin-Spyer nous apprend que Gary avait cette année-là littéralement disparu du radar pendant 2 mois. En fait, anonymat absolu, sous garantie du secret gardé par la direction du palace, le consul général de France à Los Angeles logeait au Lutetia, boulevard Raspail, avec la Joan of Arc de Preminger, la Patricia de Godard, Jean Seberg, sa maîtresse qui deviendrait sa femme en 1962 et le demeura durant 8 ans de vie pas vraiment commune. Leur divorce fait les unes en 1970. Mais là, en ce printemps de l'année 1960, rien n'est plus important à ses yeux que son idylle menée haut les cœurs avec la mignonne américaine aux yeux bleus venue des grandes plaines de l'Iowa. C'était Romain Gary, l'insolite consul, un texte de Robert Lévesque paru le 13 juin 2023 dans la revue Les Libraires.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visezvoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à André Lebeau à la lecture et à la recherche, Nicolas Wartman à la présentation et au montage.